Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol, le 13e épisode de la 3e saison de Popol. Et oui, déjà 3 ans que Popol vous accompagne dans vos oreilles tous les dimanches soirs pour décrypter l'actualité politique avec les meilleurs. Aujourd'hui avec nous, j'ai le grand plaisir d'avoir Youfi. Bonjour Youfi.
Coucou.
Comment vas-tu?
Écoute, ça va bien.
Eh ben, c'est parfait, en ce dimanche de réforme structurelle de l'assurance chômage, du RSA, des retraites, tout ça, tout va bien?
Attends, non, mais alors, si on resitue dans le contexte, par rapport au contexte, ça va plutôt bien, tu vois.
Genre, ça va plutôt pas mal.
Si on prend en compte le contexte...
C'est catastrophique,
on est bien d'accord. Ça donne envie de tout cramer, oui.
Ah, voilà, on commence fort. Merci Youfi pour cette mise en bouche bien motivante dès le dimanche. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Moi je suis une youtubeuse transféministe et militante, du coup mon activité de youtubeuse est intrinsèquement liée à mon activité militante. Je me décris aussi comme artisante nudeuse, même si maintenant c'est un peu en pause avec la disparition des plateformes qui font que va retrouver des clients après, enfin surtout des clientes dans mon cas. Mais voilà, et grosso modo ouais, je parle de sujets trans, de sujets féministes, de sujets transféministe, de sujets queer et du coup forcément de politique.
On te retrouve sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous donner le nom pour que les gens qui nous écoutent puissent aller regarder ce que tu fais?
Ouais, la chaîne s'appelle Tipoui, T-I-P-O-U-I.
On vous invite bien entendu à vous abonner et à regarder ce que tu fais. Et quand tu dis que tu milites, est-ce que tu milites dans une structure associative ou pas?
Alors, je militais dans une structure associative. J'ai été membre du CA départemental du planning familial à Bordeaux, enfin du coup okay. De Gironde.
Ah oui, et qui s'est fait attaquer plusieurs fois là récemment.
Complètement, ouais, ouais. J'étais partie avant. et j'ai été membre du CA confédéral, toujours du planning, parce que le planning familial, c'est une très grosse machine et je me suis dit, quitte à faire avancer les droits des personnes trans et la cause féministe, autant taper dans la plus grosse machine. Le truc que je n'avais pas pris conscience, c'est que le planning familial, c'est une machine qui est énorme, qui par conséquent est très lourde, avec énormément d'inertie. Et même si ça avançait, pour moi, ça n'avançait pas assez vite. Et c'est devenu très frustrant, ça a mené à un burn-out associatif, parce qu'on se rend compte qu'en tant que quasi seule personne trans, tu te retrouves à être... plus ou moins, si t'es pas là, rien n'avance dessus, et comme tous les sujets sont connexes, en fait, parce qu'il y a des personnes trans partout, bah, du coup, on a besoin de toi partout, et en plus, il faut que tu prennes tes propres trucs, bref, c'était un enfer, et même si j'ai beaucoup de très bons souvenirs au planning, hein, y a pas de souci, mais voilà, du coup, j'ai quitté ça, et après, j'ai déménagé, et après, je me suis pas remise dans une grosse structure, parce que j'ai eu plusieurs burn-out structurels à cause de toutes les structures dans lesquelles j'étais. Et maintenant, je suis un peu plus... je suis un peu plus une... Merde, comment on dit? A free shooter.
Un électron libre.
Ouais, on va dire ça. J'aime pas trop ça, parce que du coup, ça me déconnecte un petit peu de la base. Mais j'y suis quand même connecté par d'autres moyens. Mais ça reviendra. Quand mon cerveau sera un peu plus content, ça reviendra.
Et ben en tout cas, super. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Deuxième invitée de ce nouvel épisode de Popol, Fanny Baclouty. Bonjour Fanny.
Bonjour Léa, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Ça va, merci.
Contente que tu sois parmi nous.
Ravie d'être là aussi.
Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Oui, alors moi je m'appelle Fanny Baclouty, je suis militante dans le parti École Europe Écologie Les Verts depuis un an et demi à peu près, que j'ai rejoint après la campagne de la primaire de Sandrine Rousseau. C'est à cette occasion qu'avec Léa, on a eu la chance de se rencontrer et de, ne plus et de garder le contact, notamment pour faire moult blagues dont nous avons le secret. Oh. Je ne suis pas sûre qu'on fasse des blagues là aujourd'hui lors de ce podcast, mais c'était un peu un lien entre nous. Voilà.
C'est vrai, l'humour peut créer des liens assez forts, en effet. Merci beaucoup, Fanny. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Non, écoute, moi, dans le parti, je milite dans le 93, pour l'écologie populaire. Je milite aussi à la commission LGBTQIA+, du parti. On organise plein d'événements et je vous en parlerai peut-être plus tard. Voilà.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Fanny. Et enfin, troisième invité de ce nouvel épisode de Popol, last but not least, comme on dit en bon français, Camille Dumas. Bonjour, Camille.
Salut, Léa.
Comment vas-tu?
Très bien. Voilà, écoute.
Et toi, bien sûr, tu n'y échapperas pas non plus. Il va falloir que tu te présentes. Et n'oublie pas ta casquette Popol.
Non, je n'oublie pas ma casquette Popol, certainement pas. Moi, je travaille dans l'édition, je suis éditrice depuis assez longtemps maintenant, depuis plus de 15 ans. Et c'est comme ça que j'ai connu Léa. En fait, on a travaillé sur Plus de femmes en politique, qui est paru aux éditions Bellefond il y a un an, en mars 2022. Au moment des élections présidentielles. Et voilà, et c'est un travail qui a été extrêmement intéressant et une conversation très enrichissante qu'on a poursuivie avec une newsletter voilà, qui s'appelle Popol Post, à laquelle je suis sûre que vous êtes toutes et tous abonnés. Voilà, et je suis très contente de participer à cet épisode. Moi, je ne suis pas, à proprement parler, militante dans un parti ou voilà, mais mettons que je sois quand même sympathisante et surtout le but de Popol, tel que m'en a parlé Léa quand on s'est rencontrés, c'était effectivement de permettre à toutes les femmes de parler politique et de réinvestir la politique par quelque biais que ce soit, voilà. Donc je suis très contente voilà, d'être là.
Merci beaucoup à toutes les trois, je suis ravie de vous recevoir. On va parler de deux thèmes d'actualité, comme d'habitude, hein, sur Popol, rien de surprenant. Et on va commencer par la NUPES et son anniversaire. Un an déjà, un an que les partis de gauche ont réussi à s'unir autour d'un projet commun dans la perspective des élections législatives. Et comme pour chaque anniversaire, en plus du gâteau avec la cire fondue et des cadeaux à la con, c'est l'occasion de faire le bilan calmement. Quand certaines et certains considèrent que la NUPES n'est finalement qu'une alliance de circonstances électorales qui peine à se transformer en une véritable force politique, d'autres imaginent que c'est le seul espoir pour l'avenir de la gauche en France. Les récents événements ne présagent pas forcément du meilleur. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette invention hybride qui n'est ni un parti politique ni un groupe parlementaire a une chance de se pérenniser? Si oui, quelle forme cette unité pourrait-elle prendre à l'avenir? Et sinon, que doit faire la gauche pour gagner du terrain dans la perspective des prochaines échéances électorales? Et je vais commencer par Youfi. T'en penses-tu de tout ça?
Je suis team seul espoir. Ça va. C'est pas évident parce que je suis plus côté extrême gauche révolutionnaire. Donc du coup, les compromis, c'est pas trop notre marque de fabrique. Mais j'ai vraiment l'impression, surtout dans la logique du fait qu'on a besoin d'une transition écologique genre tout de suite, enfin en vrai il y a 10 ans, mais on a besoin maintenant. Du coup, c'est vrai que l'approche réformiste de ok, donc on va attendre les élections, puis du coup il faut que le machin, et puis du coup on se dit ouais, mais quand est-ce qu'on fait le taf en fait. Mais malgré tout, j'ai l'impression que la droite et le gouvernement Hollande, si on peut appeler ça un gouvernement de gauche, depuis des décennies maintenant, a quelque part volé l'imaginaire de gauche complètement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à gauche, on n'a plus d'imaginaire du tout. On n'a plus vraiment tout ce qu'on avait avec les mairies rouges, etc., tout cette espèce d'investissement en fait, culturel et social, et avoir l'impression que la gauche représente une vraie alternative. Et que voilà, et maintenant, on est dans un paysage désenchanté, entre guillemets, mais genre le truc est juste une ruine, tout est cramé, et plus personne n'imagine que quelqu'un qui dit « Non, mais en fait, il peut y avoir des fleurs ici », ça soit une logique viable, en fait.
Tu parles de Bernard Cazeneuve, cette magnifique fleur.
Je sais de personne en particulier, mais genre, c'est juste insane en fait. Enfin, c'est juste complètement aberrant à quel point Genre, juste proposer des trucs de gauche, vraiment de gauche, ça paraît direct complètement aberrant, et que les gens soient gentils et genre cèdent et fassent des trucs cool ensemble. Enfin, ça n'existe plus en fait. Le néolibéralisme, c'est juste emprunt partout et c'est juste des individus contre des individus. Et on a l'impression qu'il faut tout le temps se méfier de tout le monde et que tout le monde est là pour genre prendre avantage de nous. Et le truc, c'est que cet imaginaire s'implantant, bah, techniquement, ça devient vrai quelque part. Donc, pour moi, on a besoin que la NUPES se décide de prendre son rôle en main, arrête d'avoir des idéologies partisanes, pour le coup, et de faire « Oh là là, notre parti communiste !» Pour ne citer que, si on peut vraiment appeler ça du communisme. Il faut absolument qu'ils survivent, parce que si on fusionne et tout, on ne va plus exister. Mais genre, en fait, sans déconner, quoi, la gauche devrait un peu arrêter de penser à leurs idées de « Oh là là, il faut que je sauve mes salaires et mes députés, mes machins », et faire « Merde !» Genre, tous les gens qui sont en train de crever la dalle, on est de plus en plus… on va parler des sujets, mais genre, c'est tellement la merde et ça dégringole tellement vite que genre, il faut faire un truc, là. Et je pense qu'on a besoin de…
Ouais. Sur cette question du récit, je trouve ça vraiment super intéressant. Et tu fais vraiment bien d'insister là-dessus, parce que c'est vrai qu'en fait, on ne nous propose pas un récit alternatif. C'est « on est dans la merde, on est dans la merde, on est dans la merde ». Voilà. Et c'est vrai que c'est épuisant, en fait, hein, et que ça, je pense que ça sclérose, en tout cas, une partie de la possibilité de nous projeter, et notamment d'imaginer des solutions ensemble. Là, on est quand même dans un moment où la gauche, avec la question de la réforme des retraites et tout le zbeul autour, avec, bien, comme tu le disais, on va en parler après, mais toutes les réformes à venir qui sont tout aussi abominables, on est quand même dans un moment où la gauche pourrait se saisir de cette brèche et de cette crise sociale, puisque c'en est une, pour vraiment réinventer un récit. Moi, je ne vois rien venir et ça m'inquiète. Donc, je n'ai pas envie d'être négative hein, dans tout ce que tu viens de dire, en essayant d'être positive. Mais est-ce que on sent pas qu'il manque quelque chose? Et si oui, quoi? Une vision commune?
Je suis d'accord qu'il manque un truc. Sur la vision commune, j'en sais rien, parce que je ne sais pas s'ils peuvent être d'accord. Je ne sais pas, enfin voilà. Je veux dire, ils ne se sont pas parlé pendant tellement longtemps. Il n'y a pas eu de consensus pendant tellement longtemps. Je suis d'accord que la NUPES a donné énormément d'espoir. Et techniquement, moi, je les vois comme une sorte de genre, à un moment donné, ils se ressaisissent, ils font « Ok, bon, tant pis, on y va. » Et genre, ils bricolent un truc et sur un malentendu, ça passe. Et pendant un mandat, ça réussit à faire vaguement un truc qui redonne de l'espoir et idéalement, ils nous pondent une putain de constituante. Enfin, ils permettent de créer les conditions qui permettraient une constituante parce qu'actuellement, la cinquième est faite pour être dictatoriale dans sa nature, quelque part. Et maintenant qu'on a eu la démonstration avec Macron de à quel point, à quel point c'était possible de faire ce qu'on voulait avec la cinquième, voilà, à moins de se mettre dans une logique de voilà, on veut une dictature verte, etc. Mais je veux dire, toutes les dictatures de gauche ont systématiquement mené à des trucs un peu catastrophiques, on ne va pas se mentir. Donc je ne suis pas convaincu que ça soit vraiment l'option.
Pas certain, non. Mais en plus, ça donnerait raison à Darmanin et les Khmer Verts. Donc non, merci. Ouais. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Merci, Youfi. Effectivement, je pense que tu as souligné pas mal de points assez intéressants. Camille, est-ce que toi, tu partages aussi cette vision des choses, à savoir un espoir nécessaire pour essayer de se sortir un peu du tas de ronces, néanmoins peut-être en fait un manque de culture commune au-delà d'un manque de stratégie, comme tu le disais Youfi à très juste titre, ça fait des décennies que les partis ne se parlent plus, se tirent un peu dans les pattes pour essayer d'avoir le plus long morceau et le plus grand morceau de la couverture. Comment tu vois les choses, toi, de ton côté?
Moi, c'est un peu comme Youfi, j'ai envie de… On n'a pas tellement le choix que d'être à la fois donc la team espoir et même moi, je serais même un peu la team optimiste. Pas tant sur la NUPES, sur laquelle j'ai un avis qui est pas forcément le sujet ici, en plus de ce que je pense de la NUPES, mais… d'essayer de regarder…
Oh, si, c'est le sujet. Tu peux le partager avec nous.
C'est justement en fait de se dire quand même par rapport, enfin si on voit si on voit la droite et a fortiori l'extrême droite, parce que c'est vraiment ça le vrai sujet par ailleurs, je reviendrai un peu dessus après. Il y a ce qu'il faut voir dans dans la NUPES, c'est cette capacité qu'a la gauche à avoir des débats un peu pluriels. Alors, est-ce qu'elle arrive à les animer de manière intelligente, fructueuse? C'est une question. Est-ce qu'elle va y arriver? Moi, je souhaite que oui. Voilà, je trouve que c'est là-dessus, c'est à ça qu'il faut s'accrocher, c'est-à-dire à cette capacité de débattre, à cette capacité de ne pas être d'accord. Après, j'ai l'impression qu'on est court-circuité par une vision de la politique qui est effectivement très violente, qui est aussi... qui pose des questions économiques très fortes, qui sont celles du financement des partis, etc. Donc, il y a toujours des enjeux de personnes. Voilà, ça, toi et moi, on en a aussi beaucoup discuté. Hein, voilà, c'est des gens qui veulent rester au pouvoir, qui ont besoin d'avoir des sièges, etc. Donc, voilà, ça, c'est ce qui freine. Après, sur la question, est-ce qu'on est tous d'accord? Heureusement que non. Heureusement qu'il y a un débat. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on perd un peu de vue un ennemi, entre guillemets, assez inquiétant, qui est l'extrême droite. En fait, là, il y a un enjeu hyper fort qui est presque... qui est à la fois démocratique, c'est-à-dire effectivement, est-ce qu'on doit lutter pour nos libertés, pour l'écologie, de manière rester dans un cadre démocratique ou au contraire, effectivement, aller dans des dimensions extrêmement violentes? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer en 2027? En fait, ils sont là hyper violents. Enfin, on entend, il y a des faits divers, tous plus glauques les uns que les autres, mais qui sont, il y a cette dimension-là extrêmement violente, voilà, enfin, il y a quand même un rugbyman qui s'est quand même fait tuer en pleine rue à Saint-Germain-des-Prés. Enfin, c'est, voilà, moi, c'est un peu quelque part, moi, je trouve que il faut continuer de porter un projet d'unité, parce que déjà, moi, j'ai l'impression quand même que c'est ce que, et, alors moi, je ne suis pas militante, mais je suis entourée de militants, etc., donc c'est ça qu'ils attendent. Et même les citoyens, en fait, en tant que citoyenne, moi, ça me parle.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'était notamment un des points qui avait, je pense en partie, poussé les partis à s'accorder sur un projet commun pour les législatives. C'était une volonté très forte au sein des organisations politiques, de la part des militants et militantes, de voir cette union vraiment prendre forme. Donc, effectivement, c'est assez important, et il est important, et tu fais très bien de le rappeler, que l'ennemi principal, c'est l'extrême droite, ce qui a pour corollaire, en plus, comme tu le dis à très juste titre, de faire augmenter les crimes de haine qui sont totalement impunis par, ou presque, par le gouvernement actuel, donc une grosse crainte aussi par rapport à ça, et la nécessité effectivement de contrer cette conjoncture qui est assez néfaste pour, je pense, l'intégralité de la société. On va se tourner vers la militante EELV, mais tu peux aussi parler, bien sûr, en ton propre nom sans avoir l'étiquette EELV, mais... Je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un d'un de ces partis, justement, avec nous aujourd'hui pour que tu nous livres ton analyse. Toi, comment tu vois les choses, Fanny? Et surtout, qu'est-ce que tu attends, en fait, de la NUPES en tant que militante EELV?
Ouais, merci Léa. Oui, d'abord, déjà, en préambule, je précise quand même que je parle en mon propre nom. Je pense que c'est important. Moi, je souscris à ce que vous avez dit. Hein. Pour moi, la NUPES, ou peu importe comment on l'appellera, mais en tout cas une alliance des partis de gauche pour 2027, c'est la seule solution pour contrer l'extrême droite, justement, pour éventuellement aussi contrer le candidat qui sortira de la majorité présidentielle. Je ne sais pas encore qui c'est, mais il y aura forcément un candidat ou une candidate, je pense plutôt à un candidat. Donc ça, c'est le premier point. Mon deuxième point, c'est quand même, on a un bilan de la NUPES qui est plutôt positif, je dirais, parce que pour moi, je trouve que la NUPES, c'est quand même un formidable levier d'opposition au national, à l'Assemblée nationale. Grâce à cette NUPES, déjà, il n'y a pas de majorité absolue présidentielle, et on voit que certains dossiers arrivent à infléchir. On l'a notamment vu cette semaine avec la niche communiste la NUPES, mais aussi dans son giron d'autres groupes parlementaires, ont permis de voter une proposition de loi sur la lutte contre le démantèlement de l'EDF. Et ça, ce genre de possibilité, ce n'était pas possible avant. Donc, déjà, il y a quand même un gain politique. Après, sur l'espoir, oui, nos responsables politiques, nos responsables politiques de gauche doivent répondre à cet espoir. Espoir qu'il a suscité à juste titre. Certes, c'était un accord très rapide, mais c'est la première pierre. Donc là, on a d'ici 2027 encore quelques mois et quelques années pour construire cet accord. Je pense que c'est ce qu'attendent les militantes et les militants de gauche.
Oui, ça c'est sûr. Mais après... Il y a quand même eu des événements, le mot est faible, hein, clairement, au sein de certains partis de la NUPES qui ont pu décourager d'autres militants, d'autres partis. Je pense par exemple au fait qu'Adrien Quatennens ait été condamné pour violence conjugale et qu'il puisse encore siéger à l'Assemblée nationale et qu'il soit par ailleurs acclamé sur les bancs de LFI lorsqu'il revient dans l'hémicycle. Pas toutes les députées, mais bon, quand même, quelques personnes, et c'est suffisant pour que ce soit scandaleux. J'ai l'impression qu'il y a quelques trucs sur lesquels le dépassement, parce qu'on n'est même plus sur des désaccords, en fait, hein, stratégiques ou quoi, là, on est vraiment sur une conception de faire de la politique, c'est-à-dire une certaine nécessité d'être cohérent avec un programme sur lequel on a été élu, et aussi les actions qu'on met en œuvre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déceptions au sein des militants, et notamment des militants et militantes jeunes dans les partis, et qu'il va peut-être falloir créer une alliance sur d'autres bases, en fait, et peut-être avec d'autres personnes. Enfin, je vais peut-être un peu loin, mais...
Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Déjà, je suis complètement d'accord avec toi, c'est pour ça que c'était aussi la deuxième partie de mon propos, c'est que c'est un bilan mitigé tout de même, la NUPES au bout d'un an. On a, comme tu dis, des militants et militantes qui sont déçus de la part, en gros, des partis partenaires. Donc ça, nous, chez Europe Écologie Les Verts, on a pu être forcément très déçus du traitement de l'affaire Quatennens. On est aussi... très déçu de la posture communiste qui dit que la NUPES est un boulet, une camisole, au bout d'un an. Alors du coup, ça servait à quoi? Ça servait juste à avoir des députés. Et puis derrière, on fait quoi? On enterre cet espoir qu'on a suscité. Ce n'est pas possible de faire ça. C'est jouer avec les circonstances électorales. Et pour en finir avec ce que tu disais, je pense oui que l'idée de la candidature commune, elle devra se construire au-delà de l'appareil partisan, mais avec la société civile, sur un modèle, je ne sais pas si le modèle de la primaire populaire était pertinent, mais en tout cas, il faudra regarder toutes ces expériences pour en tirer le meilleur et enfin être à la hauteur des espoirs et des enjeux.
Très juste. En effet, c'est nécessaire d'intégrer la société civile à tout ça, notamment parce qu'on se rend compte que finalement, les partis de gauche sont arrivés, moins pour le Parti socialiste, hein, mais en tout cas, c'est vrai chez LFI et c'est vrai chez ELV, à ramener pas mal de monde de la société civile récemment, et c'était quelque chose d'assez chouette. On l'a vu hein, sur la campagne de Sandrine Rousseau plus particulièrement, là où c'était assez visible. Youfi, toi déjà, alors allez, je mets les pieds dans le plat. Moi, j'ai une crainte, je vais le dire, c'est que si jamais il y a une vraie perspective qui se dessine pour une candidature commune au sein de la NUPES en 2027, j'ai l'impression qu'on ne va pas se débarrasser de Mélenchon. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose d'après toi? Est-ce que déjà tu penses qu'il va vraiment être au rendez-vous en se disant « Ah bah attends, là il y a quand même une dernière opportunité, j'ai dit que je me retirais de la vie de politique, j'ai dit que je ne serais plus députée et que je n'allais pas me représenter, mais bon quand même, Enfin, c'est peut-être le moment. Où, est-ce que ce serait une bonne chose? Parce que moi, je pense sincèrement qu'il est temps qu'il laisse un peu sa place. D'autres personnes pensent que finalement, l'alliance repose sur lui.
Elle est chiante, ta question.
Ah non, mais tu sais, moi, je mets les pieds dans le plat.
Ouais. On parle d'un mec quand même qui trouve qu'il a certains six mecs blancs qui ne sont pas remplaçables. Genre Katniss. Alors que, sans déconner, il y en a plein en vrai. Genre ça pullule. je sais pas. C'est compliqué parce que Mélenchon, il a su beaucoup se réinventer en fait. Il a. Genre le Mélenchon de maintenant, c'est pas le Mélenchon d'il y a 10 ans.
Non, ça c'est encore moins d'il y a 30 ans.
Et ouais. Encore moins d'il y a 30 ans.
Parce qu'il était déjà là.
Hein. non, c'est.
Ah ouais, t'as voilà. Raison, c'est vrai.
Mais d'un autre côté, y a des trucs qui ont la vie dure, quoi. Tout le traitement de comment ça s'est passé avec Katniss, etc., on voit que ça s'est fait malgré Mélenchon. Et donc, il y a une perception du truc, je ne sais pas. Pour moi, les personnes qui votent NUPES ne sont pas des personnes qui sont mélenchonistes. Les personnes qui votent NUPES, c'est des personnes qui veulent absolument que la gauche passe pour pouvoir briser le cercle, en fait. Je pense qu'il y a vraiment cette logique de brisage de cercle. Et virer le Mélenchon, je pense que ça serait un signe. Enfin, l'empêcher de...
un signe de dépassement.
Ça serait un signe de dépassement. Et mais après, voilà, la politique fiction, ça n'a jamais été mon... Genre, moi, j'ai voté Mélenchon contre Macron sur la première étape, là. Donc, il y a, je ne sais plus combien d'années, 6 ans, seulement 6 ans, bordel. Et genre, je ne croyais pas en... Je veux dire, Mélenchon, j'étais en mode, c'est le moindre mot, mais c'est peut-être celui qui va nous permettre de briser le truc. Et ça n'a pas été le cas, quoi. Ça n'a pas été le cas, il a été battu plein de fois. Enfin, voilà, je veux dire, il peut laisser l'héritage de la NUPES se barrer. Voilà. Si c'était la seule chance que ça passe, je serais en mode fuck it, vas-y, prends Mélenchon, j'en suis plus à ça près. En fait, genre tout
ouais, je suis d'accord. Ouais.
Qu'est-ce que j'y peux ? Mais je pense pas qu'il soit nécessaire à ce stade. Je pense que c'est probablement plus un frein qu'autre chose. Pas tant parce qu'il est Mélenchon, mais parce qu'il est le signe d'une façon de faire de la politique d'avant. Je veux dire, il a un signe d'avant. Et je pense qu'on a besoin d'un signe de genre maintenant, on arrête les conneries. Et on fait un truc bien. Après, s'ils nous foutent Katniss à la place, on brûle tout. Mais
ouais, non merci. non merci. Ouais, non, très juste, t'as raison. Moi, je pense que je serais comme toi, ouais, en mode s'il y a vraiment que ça, bon, let's go quoi. Mais ouais. Est-ce qu'on peut imaginer une liste commune pour les élections à venir, à savoir déjà dans un premier temps les sénatoriales, et là je te pose la question à toi Camille, et dans un second temps les européennes, sachant que Marine Tondelier a déjà fermé la porte à cette option, en tout cas pour les européennes. Je ne sais pas ce qu'elle a dit pour les sénatoriales, Fanny, peut-être que tu sais ce qui a été dit de...
Il n'y a pas de ligne nationale sur les sénatoriales, c'est vraiment circonstanciel en fonction du local, voilà.
Ok. Est-ce que tu penses que c'est envisageable, ça, des listes communes pour ces prochaines échéances à venir, hein, je rappelle, sénatoriale septembre et européenne 2024?
Envisageable, ça, moi, pour le coup, je n'ai pas tellement de connaissances ou de qui me fasse pouvoir dire oui ou non. En tout cas, souhaitable. En tant que personne munie de sa petite carte électorale, oui, évidemment. En fait, ça fait déjà très longtemps que ça dure, ces élections où il y a entre 3 et 4 partis qui partent avec peu ou prou, un peu en plus accessoirement, le même programme, quasiment, enfin... et où on est là, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi mettre, et voilà. Donc oui, c'est, enfin moi ça me paraît une évidence. Alors comment faire en tant que citoyens, militants, sympathisants, personnes un peu intéressées, personnes voulant voter, accessoirement, voilà, pour que ça puisse advenir. Mais c'est vrai que moi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'alerter aussi sur... les éventuels dangers qui nous attendent en termes électoraux, et aussi les enjeux sociétaux, écologiques, qui sont des enjeux, à mon avis, colossaux, avec encore là en ce moment une possibilité quand même de changer des choses, c'est-à-dire qu'il y a une part d'espoir et d'optimisme qui reste. De toute façon, on n'a pas tellement le choix que de penser comme ça. Hein. Donc, oui, moi j'espère qu'on va pas. Enfin, j'aime pas trop développer un discours sur le tous pourris, on est dans un système politique qui nous oblige à mettre tous nos espoirs dans un parti, une personne. Mais on peut aussi essayer de dévier un tout petit peu le regard. Moi, je trouve que c'est un peu, sans vouloir revenir à Popol, mais un peu ce que tu fais, c'est aussi de rappeler aux gens que la politique, elle se trouve à plein d'endroits différents, dans nos vies privées, dans nos vies quotidiennes, dans nos vies professionnelles. Donc, ça peut être aussi un moyen d'essayer de déployer cette espèce d'énergie et de la communiquer à tout le monde, quoi. Voilà, c'est un peu réjoui de la crèche, hein, mais bon...
Non, mais c'est important, t'as raison. Hein, et puis, rappeler que c'est notre affaire, en fait, parce que parfois, on a aussi le sentiment que tout se passe un peu derrière notre dos et qu'on n'a pas voix au chapitre, alors que si, comme on le rappelle régulièrement aussi dans Popol Post, nous sommes la majorité, donc faut y aller, quoi. J'avais une question pour terminer sur ce sujet, si ça vous va. Pour toi, Fanny, toi qui es au sein d'un des partis de la NUPES, qu'est-ce que les militants et militantes peuvent faire pour impulser vers une union auprès des cadres des partis. Est-ce que vous avez un votre mot à dire, en quelque sorte?
Disons que le fonctionnement partisan, c'est un peu complexe. Et notamment chez Europe Écologie Les Verts, en fait, la capacité à infléchir ce genre de position, donc liste commune, pas liste commune, etc., ça émane des courants du parti. Donc, on est structuré tous en, on appelle ça en motion, mais on va parler de courant pour un langage plus simple. On est structuré en courant. Aujourd'hui, on a un courant ultra-majoritaire suite au congrès de décembre. Et la motion, le courant de synthèse de décembre a acté que la liste serait autonome. Donc ça a été acté lors du congrès. Pour autant, les militants, et moi la première, on a accès à des arènes, on a accès à nos cadres. Donc ça, c'est sur l'aspect informel où on peut échanger avec eux à plein d'occasions. Et sur l'aspect formel, chaque courant a la possibilité de déposer des textes pour faire infléchir. Après, comme je l'ai dit, il y a des courants majoritaires qui structurent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un peu tout ça, donc moi je suis à titre personnel, hein. Je serais pour une liste commune aux européennes. Pour autant, je respecte aussi la parole partisane, la culture militante aussi, On a entre nous, entre les différents partis de la NUPES, des cultures militantes différentes. Et aujourd'hui, sur une élection comme les européennes, ça peut être difficile à agréger entre elles. Donc, je comprends que ce soit dur à entendre pour les militantes de gauche qui ne sont pas dans des partis, mais une élection européenne, le mode de scrutin proportionnel, moi, mon analyse, je trouve que ce n'est pas si grave en termes de nombre d'élus espérés pour les partis, qu'il n'y ait pas de liste commune. Mais en termes de message, ce serait important qu'il y ait une liste commune. Je ne sais pas si c'est clair la manière dont je l'ai expliqué, mais...
Si, c'est très clair. Je vois très bien là où tu veux en venir. Je pense que c'est vrai. En fait, c'est la symbolique qui est très forte et comme tu dis, le message qui est derrière, qui serait très porteur, en tout cas, pour créer une dynamique d'unité, en quelque sorte. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois. Si ça vous convient, on va passer au deuxième thème de ce jour dont je voulais parler avec vous. Et aujourd'hui, on voulait parler de la réforme du RSA. Après la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, il fallait bien que le gouvernement s'attaque, en bon détricoteur de nos conquis sociaux, à l'un des piliers de notre système de solidarité sociale, le RSA. En effet, l'exécutif a récemment annoncé que le versement du revenu de solidarité active serait désormais conditionné à une quinzaine d'heures d'activité par semaine. Cette réforme devrait être débattue à l'occasion de l'examen du projet de loi Plein Emploi, qui doit être présenté début juin et qui portera la transformation de Pôle emploi en France Travail. Le gouvernement prétend vouloir permettre à celles et ceux qui sont éloignés de l'emploi de pouvoir découvrir les métiers, se former pour, in fine, arriver à retrouver un emploi. Mais on peut aisément y voir une forme de travail dissimulé et particulièrement précaire. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cette mesure vous semble justifiée ? Ou est-ce que, encore une fois, le gouvernement est encore totalement déconnecté de la réalité ? Camille, qu'en penses-tu ?
Qu'est-ce que j'en pense ? En fait, il y a deux choses. Il y a évidemment la nécessité de lutter contre le chômage. Il y a la nécessité de changer, c'est-à-dire d'avancer. La société, elle évolue, les infrastructures évoluent, l'économie évolue. Donc, de se dire qu'un gouvernement réfléchit à un mode d'action pour rationaliser un peu la question de Pôle emploi, qui a l'air quand même effectivement assez complexe. Sur le papier, pourquoi pas ? Après, moi, ce que j'ai l'impression d'entendre, et ça fait 20 ans qu'on l'entend, c'est toujours ce discours de pendant que certains travaillent, d'autres se tripotent la nouille. En gros, c'est un peu ça que dit, enfin, qui est un peu le sous-texte, qui est un sous-texte très politique en réalité, qui est une manière d'orchestrer une division de la population pour aussi un peu la contrôler, j'imagine, hein, ou en tout cas, voilà. Et ça, évidemment, j'ai pas un avis très positif là-dessus. Je pense aussi qu'il y a une méconnaissance totale de ce que c'est que la vie de quelqu'un qui vit des minima sociaux. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est des vraies questions. Et ça rejoint aussi la question de la réforme des retraites. C'est plutôt effectivement d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est travailler pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que ça représente, pourquoi ça devient de plus en plus difficile. Voilà, c'est ces questions-là que je trouve très... à la fois importantes, je les trouve violentes, je trouve que c'est très difficile à entendre. Alors moi, je parle d'un point de vue privilégié hein, sur la question professionnelle, donc c'est difficile pour moi de parler de ça, mais oui, je pense que c'est en tout cas, je trouve qu'il faudrait sortir de cette dichotomie-là, il y a des gens qui sont assistés dans notre société, c'est faux.
Oui, et puis parce que c'est pas encore très clair hein, la question d'activité, comment c'est défini, 15 à 20 heures, on sait pas trop ce que ça va recouper. Il y a une réalité aussi aujourd'hui dans notre pays, et je parle assez peu de moi, de ma vie personnelle, mais là j'en parle parce que j'ai cette expérience-là. Moi, il se trouve que j'ai été élevée par ma maman toute seule, qui a une sclérose en plaques depuis des années, et qui a mis des années à avoir ce qu'on appelle l'allocation adulte handicapé. Et pendant ces années où elle bataillait pour avoir un taux de reconnaissance suffisant pour pouvoir avoir cette allocation, ma maman a touché ce qu'on appelait à l'époque le RMI. Donc, ça s'appelle le RSA aujourd'hui. Et très concrètement, pendant des années, si elle n'avait pas eu accès à cette allocation, je pense que nous aurions été à la rue. Ça a été très dur, mais au moins, grâce à ça, on a pu avoir un toit. On a pu manger presque à notre faim pendant un certain nombre de temps. Donc voilà, je partage quelque chose qui me semble très important parce que là, je suis stupéfaite, mais même pas en fait, parce que voilà, je trouve que de toute façon, ce gouvernement fait que de la merde, méprise les pauvres. Méprise les pauvres, vraiment, il y a un discours de mépris, c'est-à-dire « Oh non, mais attends, tu l'as un peu voulu, hein, si tu es dans cette situation. » Et une réalité qui leur échappe, notamment la réalité qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui en France et qui bénéficient en fait du RSA. Et souvent, si les gens bénéficient du RSA, c'est parce que ces gens ne peuvent pas travailler. Personne n'a envie de bénéficier du RSA, en fait, en réalité. Personne. Tout le monde voudrait avoir un travail et pouvoir vivre correctement dans une situation en dehors de la précarité. Donc moi, je suis très en colère parce que, et tu as raison, il y a une méconnaissance totale de la réalité. On a des dirigeants qui sont complètement déconnectés et on le voit encore. Et tu as bien fait aussi de faire le lien avec la réforme des retraites et aussi la réforme de l'assurance chômage. J'en rajoute une couche. Là, il faut quand même rappeler que l'assurance chômage a été réduite dans le temps pour les allocataires, alors qu'il s'agit d'une assurance, hein, c'est pas du tout un revenu de solidarité comme le RSA ou autre. Donc voilà, je partage un peu mon énervement pour faire part de cette expérience personnelle qui me met en rage aujourd'hui et qui vraiment me donne envie de tout faire péter, voilà. je rejoins Youfi. D'ailleurs, ça fait une bonne transition pour te donner la parole et te demander ton avis sur cette question de la réforme du RSA, s'il te plaît.
Hey. Alors déjà, moi, RSA, big fan of it, hein, on va pas se mentir, je veux dire, j'ai été au RSA pendant presque 5 ans. J'ai arrêté d'être au RSA en janvier, ce qui coïncide au moment où ma partenaire est passée en SMIC à temps plein. Voilà, du coup, le RSA est parti. Bon, déjà, cette réforme, pour moi, c'est une guerre contre les pauvres. C'est aussi simple que ça. La réforme des retraites, c'était une guerre contre les pauvres aussi. La réforme du chômage, c'est une guerre contre les pauvres. Et à ce stade, de toute façon, je dis guerre, mais le mot n'est pas faible, en fait. Ça va faire des morts. C'est obligé que ça va faire des morts. Parce que tu parlais du fait d'être au RSA en attendant une AAH. Mais l'AH, les temps de réponse, normalement, sont censés être de 4 mois. Légalement, c'est 4 mois. Dans la pratique, la plupart des départements disent qu'il va falloir 1 an et demi, 2 ans d'attente, avant qu'on ouvre le putain de dossier. On ne te dit même pas oui, on l'ouvre. Donc, du coup, toutes les personnes handicapées qui dépendent de ça, qui ne peuvent pas travailler physiquement ou psychologiquement ou ce que tu veux, mécaniquement, disons, voilà, donc tout ça, c'est des gens qui vont soit mourir de situations d'extrême précarité, soit qui vont tout simplement en finir. Parce que voilà.
Parce que ça va créer de la détresse sociale, de l'angoisse. Ça, c'est super important de le souligner. Merci, Youfi.
Ouais. Complètement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de la fin de vie si on ne donne pas des conditions pour vivre correctement à côté, parce que sinon, la fin de vie, forcément, ce n'est plus un choix. Bref. Donc voilà, donc la précarité, je connais bien, hein, voilà. Puis avant la fin du type, je gagnais 400 balles, maintenant j'en gagne 250, c'est... voilà. Ensuite, il n'y a pas de taf, déjà. Genre, avec le chômage de masse qu'on a, la réforme des retraites qui va créer encore plus de chômeurs, ils vont leur faire bosser quoi ? Le taf n'est pas là, en fait. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va injecter une main-d'œuvre excessivement bon marché, qui probablement sera exempte de charges patronales, qui choisira pas son taf, qui fera un taf qui sera pas adapté et qui, en plus de ça, sera payé moins que le SMIC. Ça ne peut qu'augmenter le chômage, ça ne peut qu'augmenter la précarité globale. C'est juste n'importe quoi, et en plus d'être une guerre sur les pauvres, forcément toute guerre sur les pauvres est une réforme par nature oppressive parce que les minorisés vont s'en prendre plein la gueule comme d'habitude parce que elles sont en première ligne. Moi, je pense forcément à ma commu, les personnes trans sont une il y en a plein au RSA, il y en a plein pour qui c'est la seule ligne de survie parce que de toute façon, quel que soit leur profil, quelle que soit leur qualification, d'une manière générale, on est plus ou moins inembauchable en fait parce que la discrimination contre les personnes trans est tellement on a tellement rien à carrer que la plupart des personnes ne savent même pas que c'est pas légal en fait de virer ces personnes-là et après va solliciter les recours. Enfin voilà. Et dernier point, tous les militants qui sont au RSA, parce que alors oui, déjà être au RSA ne veut pas dire ne pas travailler, parce que le nombre de personnes qui sont au RSA, qui ont une activité associative, qui essayent de bosser, qui essayent de s'en sortir, etc. Il y en a un nombre monstrueux, quel que soit d'ailleurs leur niveau de handicap. Et en plus de ça, souvent, c'est des personnes qui militent parce qu'elles sont dans la merde, elles sont à côté de personnes qui sont dans la merde et du coup, elles ont envie de sortir de cette merde. Et le militantisme est une issue, en tout cas, c'est une fabrique d'espoir. Ces personnes-là, si en plus elles se retrouvent à bosser pour que dalle, etc., enfin, c'est... et en plus de ça, militants disent souvent faire grève, enfin, faire grève, manifester, comment tu exerces ton militantisme de droit de grève quand tu es instauré dans une structure qui t'oblige à bosser, qui ressemble quelque part aussi un petit peu avec ce qu'on fait avec les ESAT, qui est finalement exploiter les andis pour avoir une main-d'œuvre bon marché, enfin voilà. Enfin, tout le système, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est une mécompréhension en fait, et une non-connaissance, parce que tout est tellement cohérent dans le démantèlement et dans la situation dramatique que c'est en train de construire, que j'ai du mal à voir, pour moi, ils n'ont plus le bénéfice du doute, en fait. Il y a forcément des personnes qui connaissent la situation ou qui bossent avec des personnes qui connaissent la situation, qui ont pu faire... En fait, c'est un peu... C'est une connerie, ça. c'est juste complètement dangereux. Enfin...
Oui, ouais, tu as raison, c'est même plus de la déconnexion, en fait. Ça sert à un agenda très précis, très évident, qui est celui de faire une guerre aux pauvres. Et tu as tout à fait raison, et toutes les personnes qui sont minorisées. Merci beaucoup, Yofi, pour ces éléments. Fanny, bon, tu passes après un peu après tout le monde, mais j'imagine que tu ne vas pas forcément être très favorable à cette réforme, toi non plus.
Oui, c'est ça, pour le débat contradictoire, on repassera.
Oui, ce n'est pas toujours ça sur Popol, j'avoue.
Non, mais c'est bien d'aborder ces sujets aussi et qu'on en fasse parler de ça à tout le monde et surtout qu'on mette la lumière sur la catastrophe qu'annonce cette réforme. Yuffie parlait du parallèle avec les ESAT. Moi, c'est un parallèle que j'ai tout de suite fait dans mon analyse de ce truc-là, parce qu'on va transformer des allocataires en main-d'œuvre sans droit, sans protection, sans contrat de travail, sans congé payé, sans rien. Ça, c'était pour un tac au tac à ce qui a été dit. Et sinon, en fait, globalement, il s'agit de mettre les précaires au boulot. Et la conséquence de ça, ça va être quoi? Ça va encore être la montée de l'extrême droite, le marchepied vers le RN, parce que ça va être instrumentalisé derrière. Donc, on s'achemine vers une catastrophe. Le second point que je voulais aborder avec ce thème, c'était... Oui, c'est ça. C'était donc qu'il y a plusieurs blocs de critiques. La première, c'est qu'en France, traditionnellement, on a une politique d'insertion qui est sous-financée. Vraiment, on ne met pas les moyens pour l'accompagnement. Et en fait, on fait des effets d'annonce. Et là, encore une fois, c'est un effet d'annonce. Léa, tu disais tout à l'heure qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière cette obligation de 15 heures, etc. Si on ne met pas les moyens, ça va être complètement non efficient. Et évidemment, le deuxième point, ça c'était pour la partie cynique, pour ce que ça coûterait si on voulait mettre en œuvre correctement cette mesure. Et le deuxième point, c'est oui, il faut sortir de cette idée imposée que trop de gens vivraient sur la solidarité nationale, sortir de cette idée de valeur travail à tout prix, pour reprendre Sandrine Rousseau avec qui je travaille de temps en temps, cette valeur travail, c'est ce qui fait la perte de notre société. Enfin, et là, vraiment, ce qui est sous-jacent dans cette réforme, c'est ça aussi. Voilà.
Très juste. Effectivement, il y a aussi cette nécessité de nous questionner par rapport à notre rapport à la solidarité, qui est souvent confondue avec la charité, hein, de la part de notre gouvernement, dans un contexte où l'on sait que seul, on n'y arrivera pas. Seul, c'est-à-dire la France toute seule, la gauche toute seule, les femmes toutes seules, les hommes tout seuls, les personnes trans toutes seules, les personnes handi toutes seules, nous tout seuls, nous toutes seules, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'il ne serait pas temps, finalement, de manière assez urgente, de redéfinir ce socle de solidarité au lieu de le détricoter? Bon, c'est une question un peu rhétorique, hein, que je te fais, Camille, mais... Et après, je poserai la question aussi à Youfi pour qu'elle nous sorte un peu de ce marasme et qu'elle nous emmène vers quelque chose de plus positif comme elle a voulu le faire tout à l'heure. Camille, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah si, oui, évidemment. Alors là, c'est vraiment la question, c'est-à-dire effectivement de repenser une forme de rapport collectif, enfin, à la société dans laquelle on vit, c'est une évidence, mais même, enfin, je veux dire, pour nous, dans nos familles, avec nos amis, dans nos vies, au boulot, c'est effectivement, bah, c'est-à-dire qu'on baigne dans une adversité depuis, ça fait longtemps, hein, qu'il y a effectivement ces oppositions permanentes, c'est-à-dire ceux qui bossent, ceux qui bossent pas, ceux qui sont vieux, ceux qui sont jeunes, ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche, enfin voilà, donc c'est, je veux dire, on a tous des déterminismes sociaux, il y a, voilà, des déterminismes de genre, voilà, qui font que il y a des individualités propres à chaque existence, et ce qui est intéressant dans le féminisme et dans tout ce qui se passe, toute cette énergie un peu libératrice en ce moment, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on libère, du temps, par exemple, du temps que les femmes libèrent dans leur vie quotidienne, etc. Est-ce qu'on va l'investir pour faire, enfin, on peut l'investir pour faire du yoga, on peut l'investir pour regarder pousser l'herbe ou la ligne bleue des Vosges, c'est très bien. On peut aussi l'investir collectivement, on peut aussi se dire qu'est-ce qu'on fait tous ensemble, parce qu'en fait, il va falloir changer de vie. Tous, hein, je veux dire, enfin, en tout cas, ceux qui ne sont pas très très riches et qui ne sont pas déjà dans une autre sphère, on va devoir changer de vie assez vite, ne serait-ce qu'écologiquement en réalité. Donc il vaut mieux, je suis d'accord avec toi, il vaut mieux y aller tous ensemble et en serrant les coudes. De toute façon, je veux dire, on n'a pas tellement le choix, hein, donc autant faire ce pari-là. Hein, alors évidemment, je parle de manière très théorique. Là, je romantise un peu une situation, alors qu'effectivement, tout ça, ça cache des choses très violentes, des vies qui vont être effectivement un peu sacrifiées, clairement, là, si cette réforme passe. Mais on n'a pas, voilà, je trouve qu'on n'a pas d'autre choix que de penser voilà, ce combat-là ensemble.
Toi, en tant que militante, Youfi, qui a milité dans des grosses structures et plus petites structures, etc., comment tu analyses la question de la solidarité et comment on fait solidarité ? On fait société, en fait, parce que finalement, la solidarité, c'est un beau mot, mais en réalité, d'accepter que les autres ne crèvent pas la dalle ou meurent sous nos yeux, c'est juste vivre dans une société qui est à peu près viable. Comment on fait société en dehors des institutions qui semblent vouloir détricoter, en fait, ce peu de société qui nous reste ?
Elle est encore chiante, ta question, là.
Alors, je t'ai dit, tu n'es pas venu là pour les questions fastoche, hein. C'est pas une question pour un champion. Ouais. Là.
Je pense qu'on ne va pas avoir le choix. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire quelle forme ça prendra, quelle forme ça pourra prendre. Surtout qu'en plus, moi, je suis issu de la commu trans, qui est quand même fameuse pour se bouffer la gueule en permanence. Ceci étant dit, je ne sais pas si c'est un effet du contexte actuel qui fait qu'on arrête de se bouffer la gueule parce que c'est trop la merde, ou si c'est juste Twitter qui est cassé. Ça, c'est bon, Elon Musk. Comme quoi, c'est toujours les riches qui nous foutent dedans. Mais je pense qu'on ne va pas avoir le choix, parce que tout le monde, là, se rend compte que c'est la merde. On a rarement vu le pays aussi soudé sur un truc et aussi soudé sur une forme relativement radicale d'expression. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui rêvent de guillotine en ce moment. Et je pense que c'est une bonne chose. je suis contre la peine de mort, mais, mais je pense que c'est une bonne chose, vu que visiblement, être gentil avec eux, ça ne fonctionne pas. En revanche, ça veut aussi dire qu'il y a énormément de gens, d'énormément d'horizons différents qui se rencontrent et qui se parlent. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. En revanche, on en a parlé, l'extrême droite, elle se nourrit du désespoir. Et le désespoir, là, on est en train d'en produire. c'est le produit phare de l'industrie française, le désespoir, à ce stade-là. Mais voilà, donc je pense vraiment qu'on arrive à une croisée des chemins où il ne va pas y avoir le choix. Macron, il ne peut pas se représenter une troisième fois, ça on le sait, mais la majorité présidentielle, j'ai du mal à voir comment elle pourrait sortir un candidat viable après la séquence qu'on vient de se taper aussitôt dans le mandat. Après, on le sait, les gens ont la mémoire courte et on a vu des trucs complètement hallucinants sortir à un an et demi des présidentielles et être complètement oublié le jour des présidentielles. T'es en mode, mais... Enfin, ça corrompt, c'est genre Benalla, qui parle encore de Benalla? Genre colère, qui parle? Enfin, merde, les dossiers sont tellement énormes, c'est plus des casseroles, enfin, c'est des foutus truands, on a une machine à la tête de l'État. Enfin.
Eh ouais, très juste, ouais.
C'est...
Non, effectivement, tu as raison. Je pense que dans cette opposition, il y a quand même des choses qui se créent. Et du coup, dernière question, elle est pour Fanny, pour conclure, boucler ce tour de table. Est-ce qu'il y a typiquement l'opposition qui est en train de se créer autour de la réforme des retraites, est-ce que c'est une opposition qu'on pourrait retrouver contre la réforme du RSA? Est-ce qu'elle est transposable, en quelque sorte?
Transposable texto, non, parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui militent quand ça les concerne directement. Or, aujourd'hui, évidemment, l'âge de départ à la retraite, le report, concerne beaucoup plus de personnes que ce que concerne le RSA. Pour autant, en termes de méthode, je pense qu'il faut appeler... à des intersyndicales communes, des fronts communs, partisans, NUPES, on en parlait au début de ce podcast, pardon. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Donc, il faut employer les mêmes méthodes, il faut militer, continuer à militer contre la réforme des retraites, mais ajouter, agréger tous les manquements, tous les exemples de casse de nos droits sociaux. Et militer pour la retraite, ça peut être militer en même temps contre la réforme du RSA et donc agréger toutes ces luttes ensemble. Pour moi, on ne peut pas lutter en étant sur une monolutte en ce moment, il y en a tellement. Agrégeons nos luttes et c'est aussi comme ça qu'on fait société, c'est en agrégeant nos luttes.
Oui, juste, bah, écoutez, franchement, j'ai été très contente de parler avec vous de ces deux thématiques, aussi parce qu'on est arrivé à prendre vachement de hauteur. J'ai trouvé ça assez cool. Bon, les thèmes nous le permettaient, hein, bien sûr, mais c'est vrai que on n'a pas toujours l'opportunité de le faire. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. Maintenant, on va passer à vos petites actualités. On va passer à ce dont vous vouliez nous parler, vous, plus particulièrement. Et Youfi, voudrais-tu commencer, s'il te plaît?
Avec plaisir, j'ai rien trouvé de spécifique. Je me suis dit, on va peut-être parler des TERF, puis on va peut-être parler de... Tu vois, je ne sais pas trop.
Est-ce qu'elle mérite vraiment?
Non, elle ne mérite pas qu'on en parle.
Moi, j'ai l'impression qu'on en parle trop.
On en parle trop. Voilà. T'as raison qu'on en parle trop. Mais en même temps, on a tellement partout, bordel de merde.
C'est peut-être ça, ouais.
Ça pullule, mais je vais quand même juste dropper un petit chiffre dessus.
Ah oui, tu peux, bien sûr. Oui. Non, mais il faut effectivement objectiver le phénomène, c'est important. Ouais,
mais c'est un anti-chiffre. Parce que les TERF, elles aiment bien se concentrer sur « Oh là là, les lesbiennes, tout ça, n'aiment pas les bites ». Les femmes cis lesbiennes sont la démographie cis la plus susceptible d'être en faveur des personnes trans et d'être respectable des personnes trans, à plus de 90%. Genre très, très loin devant toutes les
autres. Bravo les lesbiennes.
Bravo les lesbiennes. Donc voilà, on ne va pas les laisser se faire weaponiser, instrumentaliser par les fucking TERF. Mais quoi dire, je ne sais pas trop. J'ai sorti une super vidéo sur le consentement, il n'y a pas si longtemps que ça, qui était un peu mon marchepied pour pouvoir parler de la question de queer et de kink qui arrive quand j'aurai fini le script, donc un jour, et qui elle-même est nécessaire pour construire un peu une sorte de magnum opus sur la façon qu'on a de faire de la justice communautaire au sein des communautés trans et queer, mais aussi au sein de la gauche, et comment, ouais, grosso modo, ça va être une sorte de trucs énormes en mode la pureté militante c'est de la merde, regardez-vous un peu dans un miroir et arrêtez d'essayer de cramer vos potes à tout prix juste pour pouvoir vous donner bonne conscience, parce que c'est pas un bon bail. C'est pas comme ça qu'on avancera, et que à droite ils ont pas de conscience, donc du coup ils se tapent pas dessus.
Ah, ça c'est clair, super, merci Youfi. Tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient pas noté le nom de ta chaîne en intro?
Oui. Le nom de la chaîne est Tipoui, T-I-P-O-U-I, ça ne veut rien dire, c'est un bruit que j'ai tendance à faire en bonne personne complètement neurotypique que je suis, et est-ce que je regrette d'avoir donné un nom qui ne donne absolument aucune information sur qu'est-ce que c'est la chaîne après 5 ans? Oui, mais j'ai jamais été bonne en marketing.
chacune son truc, hein, faut bien dire. Merci beaucoup, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose?
Non, c'est normal d'être mauvaise en marketing. Je veux dire, youtubeuse et nudeuse, c'est déjà tellement de métiers différents en même temps. Je ne peux pas être bonne en tout.
C'est déjà suffisamment slasheuse, en effet. Je ne te jette pas la pierre, je suis terrible en marketing aussi.
Ah, c'est tellement de la merde.
Popole voulant dire ce que ça veut dire, après tout. Voilà.
Je sais.
Pourquoi ce nom? Ah, bah, bonne question, tiens.
Au moins, on le retient.
On le retient, voilà, c'est vrai. Merci beaucoup, Youfi. Fanny, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît?
Ouais, merci Léa. Moi, je voulais profiter de cette mini carte blanche pour vous parler des 10 ans du mariage pour toutes et tous. Ce sera le 17 mai. Voilà, on se souvient toutes ici à l'époque de ce moment de joie, de ce moment de liesse, des discours de Taubira. Moi, je me rappelle que j'étais jeune à l'époque et ça m'avait profondément marquée. Mais voilà, je ne voudrais pas aussi qu'on oublie le chemin qu'il reste à parcourir, notamment parce que cette loi évidemment a autorisé le mariage. Pour autant, il n'y avait pas la PMA dedans. La PMA a ensuite été votée dans une loi, mais en excluant par exemple les personnes trans. Et aussi les débats liés au mariage pour toutes et tous, et l'ambiance actuelle fait ressentir des relents d'homophobie, de transphobie. Et il faut pas lâcher le combat, il faut continuer à militer. Et du coup, petite auto-promo avec la commission LGBTQIA+, et ELV Paris, on organise un super événement jeudi au Tango, jeudi soir.
Oh, j'adore à Paris, Tango. Du coup.
Ben voilà, Léa, je t'invite bien et je vous invite toutes si vous pouvez venir. Où justement, on reviendra sur la perspective historique, mais sur tout ce qu'il reste à faire. On aura des protagonistes de l'époque, on aura aussi Rosaine de Carboulec qui va venir parler de son livre. Donc ça va être un super événement, n'hésitez pas, toutes les infos sont sur nos pages Twitter, la page de la commission, la page de ELV Paris, voilà.
Et bah trop cool et félicitations pour l'organisation de cet événement, ça promet d'être super intéressant, bravo, super. Et enfin Camille, de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît?
Eh ben, sans grande surprise, moi, je vais parler de bouquins et d'un livre qui va sortir le 16 mai aux éditions Bellefonds, qui s'appelle « Vieille peau ». Qui a été écrit par Fiona Schmidt, qui est une militante féministe que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Ou en tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur vos réseaux pour découvrir son travail. Vieille peau, c'est un livre sur l'agisme. Donc, c'est un mot comme ça qui fait un peu peur, surtout qu'on se dit « ah bah, c'est, ça ne nous concerne pas, c'est pour les vieux et les vieilles ». Alors, pas du tout. En fait, l'agisme, c'est l'ensemble des discriminations liées à l'âge d'un point de vue féministe, en l'occurrence pour le travail de Fiona. Mais moi, c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur parce que je trouve que c'est un livre qui a une puissance féministe et politique assez forte, parce que la question, elle n'est pas tellement de... Elle n'est pas tellement de se dire soit c'est terrible, soit on va tout changer, mais c'est un texte qui invite justement à s'interroger sur les conditions de sa propre libération et de son propre affranchissement. Alors là, en l'occurrence, en tant que femme, c'est de regarder un peu en face les difficultés qui nous sont imposées par la société. Voilà. Et du coup, je vous le recommande.
Super, merci beaucoup. Et bravo à Fiona et à la maison Bellefonds pour cette expérience, enfin, cette nouvelle aventure éditoriale. Donc le 16 mai, c'est bien ça, la sortie
Tout à fait.
Super. Voilà. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps d'échanger avec moi aujourd'hui sur ces nouveaux sujets d'actualité. Je vous souhaite une excellente journée. Je remercie celles et ceux qui nous écoutent. Je rappelle que celles et ceux qui nous écoutent peuvent aussi nous lire. Il suffit d'aller vous abonner sur le site de la newsletter. Donc, c'est jinkyo.fr/popolpost.fr, je ne sais pas quoi. Enfin bon, bref, vous tapez popolpost dans votre barre de recherche sur votre navigateur préféré. Et n'hésitez pas à aller vous inscrire. C'est une newsletter qui est bimensuelle. Donc, toutes les deux semaines, Camille, Amandine, Clotilde et moi, nous vous envoyons nos réflexions sur plein de choses, des sujets, bien sûr, politiques et féministes, évidemment. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.